Cela nous amène maintenant à ouvrir et à feuilleter avec vous la passionnante aventure d'Arsène Lupin qui porte le titre « La comtesse de Cagliostro ». Celle-là même qui a inspiré le flamboyant film où Romain Duris endosse la cape du bel Arsène. Le romancier nous y décrit la naissance de Lupin, son milieu social, son enfance, son initiation au cambriolage, ses premières amours, sa personnalité complexe, voire ambiguë. Les 1000 aspects de son personnage, les 1000 vies d'Arsène Lupin. Soyez attentifs. Nous sommes bien éloignés du portrait que nous ont laissé les incarnations cinématographiques de Jules Berry, Robert Lamoureux, Georges Descrières, Jean-Claude Brialy, Jean-Pierre Cassel, François Dunoyer et leurs successeurs. Où est né Arsène Raoul Lupin? Eh bien, Leblanc ne le précise pas. On a dit à Blois, ce qui n'est qu'un leurre, peu vraisemblable. Un chercheur a suggéré le donjon à Étretat, château anglo-normand qui surplombe les falaises et la plage de Galée. Le site est aujourd'hui devenu un hôtel et restaurant de luxe. Ah, on peut rêver. Ça ravirait d'ailleurs le bel Arsène. Hypothèse assez séduisante donc, d'autant que la ville est éminemment lupinienne avec la villa de Maurice Leblanc, le clos Lupin, devenu musée vivant du gentleman cambrioleur. Nous avons par contre une date de naissance plausible, 1874. La mère d'Arsène s'appelle Henriette d'Andrézy, son père Théophraste Lupin. Nous savons que ce dernier était un simple professeur de gymnastique, d'escrime et de boxe. C'est pour cette raison que sa belle famille n'apprécia guère qu'Henriette s'éprenne d'un simple roturier. Et déjà dans ses gènes, voilà le petit Arsène balancé entre une ascendance aristocratique et un héritage peu recommandable, puisque derrière ses activités sportives, Théophraste cache surtout une vocation bien remplie d'escrocs. Il finira condamné et emprisonné aux États-Unis où il décédera. Le petit Arsène est vite placé en nourrice, dans un village incertain. Puis ce sera la vie à Paris qui émerveille l'enfant. La mère a repris son nom de jeune fille. Elle et son fils sont désormais des d'Andrézy. Dans la gêne, Henriette accepte un emploi de servante chez un cousin éloigné, le duc de Dreux-Soubise. Situation humiliante pour l'enfant et sa mère. Amour et haine à l'égard de la noblesse s'insinuent en lui. Adulte. Il saura à la fois l'humilier, l'envier, la voler. Raoul d'Andrézy et Arsène Lupin sont les deux cartes de visite d'un même être en devenir. Devenir quoi? Devenir qui? Il ne renie pas ses gènes. À 6 ans, il commet sa première action d'éclat. Sur place, au château, il vole aux Dreux-Soubise leur bien le plus précieux, le fameux collier de la reine que Marie-Antoinette avait refusé. Soupçonné, l'enfant est relégué à l'étage des domestiques avec sa mère, puis tous deux sont congédiés. On perd alors leurs traces. On sait que, comme dans les mélos de l'époque, Henriette tombe malade et meurt alors que le garçonnet a 12 ans. Ses années de formation ne sont pas précisées. Misère, de toute évidence. Années mouvementées, études de médecine, de droit, essais d'acteur, puis professeur de sport de défense. Il trouve enfin une voie. Brûlé d'ambition, imagine Leblanc. Ne sachant pas dans quel domaine et par quels moyens se réaliseraient ses rêves de gloire, de fortune et de puissance, il se dépensait de tous côtés pour être prêt à répondre à l'appel du destin. Intelligence, esprit, volonté, adresse physique, force musculaire, souplesse, endurance. Il cultiva tous ses dons jusqu'à l'extrême limite. Gloire, fortune, puissance. Son programme vital est désormais défini. Ajoutons-y les aventures amoureuses sur la côte d'Azur, par exemple. Il y séduit une jeune femme nommée Geneviève qui aura une fille de lui. Instable, trop jeune, il la quitte, lui brisant le cœur. Le sort se vengera quand une comtesse d'Origny lui imposera le même chagrin en refusant de l'aimer. Mars 1894, coup de foudre pour Clarisse d'Étigues, dont le père lui refuse la main, du moins provisoirement. car à ce moment surgit la vénéneuse et dangereuse Joséphine, comtesse de Cagliostro. Elle se programme immortelle car descendante du mage Cagliostro et de Joséphine de Beauharnais, pas moins. Chef d'un gang redoutable, elle écume la Normandie et vit sur une péniche qu'elle amarre au bord de la Seine ou au Havre. C'est là qu'elle va vivre un début de passion avec le jeune Arsène de près de 20 ans. Cette fois, il a trouvé son initiatrice, en chasse au trésor et en amour. Car elle va lui apprendre la volupté dans le raffinement, l'opium et la douleur. Avec elle, puis contre elle, le jeune Lupin tentera de retrouver le fameux trésor des abbayes de Normandie, de Jumièges à Fécamp. Enfin marié avec Clarisse Détigue, il entre dans la grande classe du cambriolage et du décodage d'énigmes, à l'insu de son épouse, bien entendu. Puis ce sera la fameuse quête du trésor des rois de France avec l'aiguille creuse. Cette fois, Arsène est enfin devenu Lupin. Il est tel que nous le connaissons et que nous l'aimerons toujours. Mais il cache bien son jeu. Si l'on relit la fin de la comtesse de Cagliostro, nous découvrons un Lupin bien plus inquiétant, plus sombre, plus mégalomane qu'on imagine. Sa rencontre avec la Cagliostro lui a appris que le souvenir de l'amour est, je cite, « un âpre besoin de haine et de provocation ». Face à sa rivale, Lupin l'élève, devient Lupin le maître. Et c'est à la dernière page du roman que Maurice Leblanc bouscule les images légères que nous aurions pu nous faire. Lupin avait dans le sang le besoin de prendre, de combiner, de mystifier, de duper, de s'amuser aux dépens d'autrui. Il était d'instinct contrebandier, flibustier, maraudeur, pirate, conspirateur et surtout chef de bande. En outre, à l'école de la Cagliostro, il s'était rendu compte, avec un certain orgueil, des qualités vraiment exceptionnelles qui le mettaient hors de pair. Il croyait à son génie. Il s'attribuait des droits à une destinée fantastique, en opposition avec la destinée de tous les hommes qui vivaient en même temps que lui. Il serait au-dessus de tous. Il serait le maître. Il va ainsi triompher au cours de la Belle Époque. Celle-ci n'est en fait belle que pour les nantis et les gens de pouvoir. Et pourtant, il s'agit de l'âge d'or pour Lupin. C'est au cours de ces années qui précèdent la Grande Guerre qu'il impose son image, sa silhouette de dandy. C'est elle que l'on verra en couverture des éditions des années 30 chez Pierre Lafitte et même encore des rééditions actuelles. Chapeau de forme, monocle, longue cape, nœud de cérémonie, canne à pommeau, écharpe élégante et frac de soirée, même quand il court sur les toits des immeubles là où il opère. Dans l'intimité, il s'exhibe devant ses conquêtes en pyjama de soie ivoire, avant de passer à la nudité propice au plaisir de la chair. Même nu, il séduit, mais de cela Leblanc ne parle jamais. Question d'époque. Arsène a et entretient un corps d'athlète. Il a été à bonne école avec son père. Depuis, il se muscle et sculpte son corps, de quoi lui permettre ses voltiges, les efforts physiques qu'exigent ses casses, ses fuites empressées et l'intensité de ses amours. Bref, Lupin gagne le grand prix d'élégance de la littérature des années fin de siècle aux années folles. Cette pratique du fitness s'accompagne d'une diététique qu'on soupçonne à peine. Ainsi, quand le montant l'air dans Arsène Lupin contre Herlock Scholmes dîne avec Maurice Leblanc, hein, dans un petit restaurant proche de la Gare du Nord à Paris, on est surpris d'apprendre ses saines habitudes. Les conventions sur la nourriture l'intéressent peu. Il ne consomme ni viande, ni alcool. Il déclare qu'il est de plus en plus végétarien. Oh, ni par goût, ni par habitude, ni par croyance, mais bien par hygiène. Il ne commet une entorse à son régime que quand il va dans le beau monde, afin, dit-il, de ne pas se singulariser, à savoir, ne pas se faire repérer. On sait aussi qu'il se rend au bain turc tous les vendredis pour maintenir sa ligne et entretenir sa vigueur. Il est même le premier héros d'aventure qui bronze en haute montagne, ce qu'il nomme une application solaire. Il fera de même un jour dans le roman « La Bariva ». Pour mieux réfléchir, il s'étend sur la plage de Sainte-Adresse, près du Havre. Bien d'autres aspects du personnage échappent au grand public qui n'a pas lu ses aventures. Lupin cultive sa musculature. Mais il se cultive aussi. Aussi est-il abonné à l'opéra. Il ne ressemble en rien au cambrioleur de romans policiers par son souci de la distinction. Distinction dans sa mise, dans son langage. Et quand il perce un coffre-fort, il le fait comme un chirurgien qui opère l'appendicite d'une mondaine parisienne. On apprendra qu'il dépense des sommes folles en parfum pour hommes de chez Guerlain. C'est un raffiné. Il possède des appartements au Ritz, au Savoie de Londres, au Danieli de Venise. Il hante et salue les grands de son époque, de Diaghilev à Caruso. Son époque se retrouve aussi dans un certain snobisme qu'il cultive. Il a certaines poses pareilles à celles que s'octroient à la même époque. Les personnages de Proust qui hantent les salons mondains. Mais cette affaîtrie n'est que de façade, comme une sorte de masque protecteur. Il s'amuse, joue les dilettantes. Il fait le bien, il fait le mal, mais cela demeure ludique chez lui. Il aime dépouiller les aristocrates de province, ceux-là même qui se croient invincibles et cachent leur collection de bijoux et de tableaux dans leur petit château. Mais il met les rieurs de son côté. Pénétrant chez le baron Scormann pour le dévaliser, Lupin, dépité, en repart les mains vides. Il ne manque pourtant pas de laisser sa carte de visite bien en vue. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur, reviendra quand les meubles seront authentiques. C'est un détail que Leblanc a aussi emprunté à l'anarchiste cambrioleur Jacob, qui faisait de même, en laissant une carte de visite signée Hannibal. Les innovations dans la saga nous étonnent parfois. Ainsi, ce début d'histoire des Jeux du Soleil, sur le divan de Maurice Leblanc, vient s'allonger Lupin lui-même. Et Leblanc nous gratifie alors d'une fantaisie d'écriture hardie pour l'époque. Il devise nonchalamment avec sa créature. Leblanc interroge Lupin sur ses aventures. Et Lupin se fait désirer. Délectable. La scène se situe en plein Paris, au domicile de l'écrivain. 10 bis, rue Piccini, narré dans Les Confidences d'Arsène Lupin de 1913. Mieux. On y voit Lupin et son père littéraire se lancer ensemble dans l'enquête qui nous est contée. Ainsi, l'écrivain devient-il le seul biographe autorisé de son personnage. Mais il est aussi le seul géographe de son personnage. Et il emmène son Lupin dans des lieux divers qu'on ne soupçonne même pas, comme le Maroc de la Légion étrangère, comme notre Belgique. Savez-vous par exemple que Lupin vient à Bruxelles à la fin de son enquête sur la demoiselle aux yeux verts ? Dans des conditions sentimentales qui font chavirer les cœurs. Il reçoit d'une belle Aurélie une lettre ardente qui se termine par « Je m'en vais, Raoul. Ne cherchez pas à savoir où je suis. » Mais il n'a pas envie d'attendre. Sacré Lupin. Il a raison de ne pas se décourager puisqu'il reçoit un télégramme quelques temps après où la jeune fille le prie de venir à Bruxelles le lendemain et lui fixe rendez-vous au bois de la Cambre. Il s'y précipite. La voix arrivée souriante, résolue. Avec un air de tendresse infini. Mais elle lui susurre, « Raoul, vous n'êtes pas homme à aimer toujours, ni même, hélas, bien longtemps. » Voilà qui est dit. Elle lui donne quand même rendez-vous le soir au Théâtre Royal, comprenez, à la Monnaie donc. Vous y trouverez une baignoire. On y joue la Bohème, un opéra de 1896. Il s'y rend. Aurélie est la cantatrice vedette de l'œuvre de Puccini sous le nom de Lucie Gauthier. À la fin de l'opéra, il se fait conduire dans la loge de la triomphatrice. La jolie tête blonde s'inclina vers lui. Leurs lèvres s'unirent. Fondu, baiser, fin, comme on dit au cinéma. Loin des triomphes lyriques de la Monnaie, Leblanc a surtout donné à Lupin son amour pour son propre territoire natal, sa vraie région affective. les paysages que l'écrivain a sillonnés si souvent en bicycle, puis en automobile, seul ou en galante compagnie, avec une griserie que Leblanc attribue aussi à Lupin, celle de la vitesse. La phrase même de l'écrivain est dynamique. Elle court vite sur la feuille, elle nous emporte. C'est pareil quand son personnage file à toute vitesse dans les campagnes du pays de Caux, la contrée préférée de Lupin. Elle est là, dans ce pays cauchois et dans les boucles de la Seine. Leblanc, d'ailleurs, se fait même chroniqueur touristique. Dès sa deuxième nouvelle pour Je sais tout, il écrit avec lyrisme « Il n'est point de touriste digne de ce nom qui ne connaisse les bords de Seine et qui n'ait remarqué en allant des ruines de Jumièges aux ruines de Sainte-Vendry, l'étrange petit château féodal du Malaquis. Dans l'aiguille creuse, il récidive Rouen, Dieppe, Le Havre, le triangle cauchois. Tout est là, d'un côté la mer, d'un autre la Seine, d'un autre les deux vallées qui conduisent de Rouen à Dieppe. Mais l'endroit le plus emblématique de Lupin demeure les falaises d'Étretat. Encore aujourd'hui, vous côtoyez Lupin si vous les escaladez. Le soleil d'hiver peut jouer aux impressionnistes avec des nuages à la Debussy ou à la Monet. Peu importe. Vous êtes à la fin du roman L'aiguille creuse. Vous êtes Lupin. Mais vous n'êtes pas le seul. Aujourd'hui, durant les week-ends, même ceux de basse saison, des groupes entiers de promeneurs grimpent là-haut, fascinés par l'aiguille creuse, la fameuse pyramide de calcaire et sa voisine, la porte d'Aval. Aucun d'entre eux n'a de curiosité géologique. Ils viennent ici pour Omar Sy, pour le Lupin de la série Netflix, pour Lupin. Ils photographient à tout va, se prennent en selfie devant ce paysage magique ou dans la grotte des Demoiselles. Dans cette excavation, ils cherchent en vain le message codé que Lupin déchiffrait. Pour se consoler, les amoureux y gravent le nom de leurs petites amies. Ceci prouve que Lupin est éternel et le restera. Tous ceux qui viennent pour la fameuse aiguille savent-ils qu'elle n'est creuse que par l'imagination de Maurice Leblanc. Ces jeunes, en majorité, ont la vingtaine jusqu'à la trentaine. Certains viennent des banlieues de la capitale et de grandes villes. D'autres sont des touristes étrangers. Ils sont venus de partout. Touché par le personnage parce que l'acteur qui endosse la peau de Lupin, à savoir Omar Sy, sort des mêmes banlieues qu'eux. L'enfance difficile et malheureuse de Lupin est parfois la leur. Donc socialement, Lupin est toujours actuel. Le succès planétaire de l'adaptation produite par Netflix l'a prouvé. Et tant que la fameuse aiguille d'Étretat se dressera dans l'écume des vagues qui rongent ses falaises, on entendra le rire de Lupin se moquer de la suffisance, de la médiocrité et de la richesse. Et c'est ainsi qu'il nous enchantera encore, pour très longtemps.